regarder le volume pendant une heure. En tout cas, je vais me promener, je vais prendre possession des lieux tranquillement. Salut tout le monde, merci beaucoup.
Oui,
enregistré audio, de vous être présenté aujourd'hui. C'est cool, je reconnais des visages. Salut tout le monde. C'est vraiment cool de vous être déplacé pour entendre parler, c'est ça, du bouquin que j'ai coécrit avec Arnaud Thuriot-Cloutier et Alain Savard, des amis et camarades, pour une écologie du 99%. On a pitché ça dans l'espace public en espérant qu'il y ait un écho, puis à date, on est bien servi pour une critique capitaliste ou une critique écologique du capitalisme. Vendre plus de livres qu'Astérix dans les dernières deux semaines, c'était une bonne nouvelle pour nous autres. Ça a été le cas sur selon les libraires. Fait qu'on prend ça comme un bon feedback. À soir, moi, je vous entretiens sur par quoi qu'on pourrait remplacer l'économie capitaliste. C'est rarement une question qu'on prend de front. C'est pas de même qu'on est habitué à réfléchir non plus en termes positifs. Les intellos de la gang, les académiques et même les gens qui font partie des mouvements sociaux, on est souvent habitué à réfléchir en termes négatifs. On est tellement assailli de toutes parts, on réfléchit en termes négatifs, on veut moins de telle affaire, on veut pas ça, on veut pas ci. Et c'est rare qu'on a, disons-le, le luxe de prendre un pas de recul et de se demander, mais qu'est-ce qu'on veut au final? Qu'est-ce qu'on propose? C'est quoi la dimension positive de la critique du capitalisme? Puis à soir, j'ai le luxe de vous entretenir là-dessus pendant ish une heure, puis ensuite discussion. Puis je vais le prendre parce que en plus, il y a Arnaud qui vous a entretenu il y a deux semaines sur justement la critique écologique du capitalisme. Pourquoi est-ce qu'une transition seulement énergétique, donc une espèce de changement d'huile entre énergie fossile vers énergie renouvelable, n'est pas possible? Et en quoi l'organisation sociale du capitalisme est à la cause de la crise écologique actuelle? J'ai comme le luxe de mettre ces questions-là de côté, même si j'aime bien en traiter, et juste de me consacrer à la dimension positive. C'est assez rare parce que, pour ceux et celles qui lisent des livres là-dessus, les auteurs, autrices vont comme conclure avec deux, trois coups de cuillère à peau, bon, on pourrait faire un peu ci, un peu ça, on vous encourage à penser davantage. Puis ça se finit après quelques lignes, voire quelques pages, quand on est chanceux. Ce que j'essaie de faire, tu sais, à soir, mais plus largement ailleurs, c'est un peu de renverser cette patente-là, et de se dire, c'est correct, là, on a atteint, selon moi, un niveau suffisant de compréhension de la patente, là. Puis ça serait intéressant de se demander, mais qu'est-ce qu'on propose au final? Puis j'essaie de proposer, puis beaucoup d'entre vous, en tout cas pour ceux qui le connaissent, je travaille avec Simon Tremblay-Pépin, c'est mon directeur de thèse, un des deux, qui travaille sur la planification démocratique. On y doit beaucoup pour cette entrée-là au Québec et à Pascal Lebrun qui a écrit un livre qui s'appelle L'économie participaliste. Je veux toujours comment qu'ils finissent là, parce qu'il y a deux appellations qui sont interchangeables, là, participaliste et participative. Bref. Donc, de renverser ce rapport-là à la théorie, puis de se demander, mais qu'est-ce qu'on veut proposer? Voilà. Je vais m'en distinguer un petit peu pour rester proche du propos du bouquin, en me rapprochant de la dimension écologique de planification démocratique de l'économie. Donc, je vais pas rentrer dans le fin détail de comment ça pourrait fonctionner, parce que c'est une discussion qui peut vite devenir technique. Ça va me faire plaisir d'ouvrir la discussion dans la période des questions après. Mais évidemment, je vais rentrer dans les principes. Là. C'est pour ça qu'on est là ce soir. Mais une des questions que qu'on va se poser à soir, ça va être pourquoi est-ce qu'une planification démocratique de l'économie est bénéfique d'un point de vue environnemental, entre autres. On peut d'ailleurs passer au plan de match sur la prochaine slide, s'il vous plaît. Ah, les couleurs étaient différentes que ça, je vous promets, sur le laptop, j'ai pas choisi cette couleur-là de background. Ah, ça fait...
C'est le projecteur, ouais. Je pense.
Ben, c'est bien correct. Ben, en tout cas. Pour vous, ça joue l'air. Ce qu'on va commencer par faire, c'est recadrer le débat. Parce que ce serait déjà faux de reprendre les termes du débat qui nous sont présentés, qui nous sont donnés. Il ne faut pas oublier qu'on évolue dans une économie, dans une société qui est capitaliste à peu près en total. Donc, les termes du débat sur la planification sont faussés. Il faut reposer les termes du débat. C'est le début de toute conversation suffisamment critique sur un enjeu qu'on veut traiter, qui est travail contre l'idéologie, si on veut. Ensuite, bon, quelques traits 101 avec quand même les ouvrages principaux qui sont à, qu'on ne peut pas éviter sur la question de la planification. Je vais voir en fonction d'où je suis rendu puis du temps que j'ai, à quel point je rentre dans le détail puis de votre réponse aussi. C'est quoi la planification démocratique? T'sais, qu'est-ce que c'est ça que cette affaire-là? Nous, dans le bouquin, ce qu'on propose, c'est que c'est la principale solution en termes d'alternative systémique, donc d'un système qui fonctionne dans son ensemble, qui pourrait remplacer une organisation économique de l'économie. Puis il n'y en a pas beaucoup sur la table dans un premier temps, mis à part la social-démocratie qui accepte la prémisse capitaliste, qu'on doit en fait se contenter d'en mitiger les conséquences. La littérature francophone sur la planification démocratique est très faible. Là-dessus, je viens de terminer d'écrire un autre livre, en fait, là, je vous le dis, avec Simon Tremblay-Pépin et Audrey Lorrain-Lamotte, qui va s'en venir, on ne le sait pas quand, là, c'est dans les mains de l'éditeur pour l'instant. Fait que dans l'année à venir, on fait comme un travail pour franciser cette littérature-là pour qu'elle soit accessible, puis pour aussi outiller les mouvements sociaux sur la planification démocratique de l'économie. C'est une affaire qu'on n'entend pas assez parler, alors que combien de fois, comme militant, puis peut-être vous autres aussi comme militantes ou comme militants, vous êtes fait demander, là, c'est bien beau, là, mais ça marche pas, là, mais qu'est-ce que vous avez à proposer? Puis bien souvent, je me suis ramassé les poches vides, là, je proposais des réformes, des morceaux d'une société post-capitaliste et non un plan dans son ensemble, qui n'est pas fini non plus. Là, hein? C'est pas une destination non plus là, que je vous propose, qui est finale. C'est un élément de débat qu'on met sur la table et qui, évidemment, doit être débattu pour être implanté. Puis j'ai dit économie post-capitaliste. Il y a plein de petits détails ou de nuances. Mais ce n'est pas synonyme d'économie planifiée démocratiquement. Il n'y a rien qui nous dit que le système économique qui va remplacer le capitalisme va être socialement plus juste ou écologiquement plus viable. La nature de ce système-là va être déterminée par le rapport de force en vigueur au moment de la transition. Puis actuellement, si ce moment de transition-là arrivait maintenant, on serait mal foutu, puis on pourrait s'attendre à ce que le système économique serve encore les intérêts de la classe dominante et soit écologiquement moins durable et socialement autant juste, pour autant qu'on peut parler de justice. Puis la question, le lien entre planification démocratique de l'économie et crise écologique. Sinon, je vais prendre les questions peut-être de clarification et de compréhension en cours de présentation. Si vous avez des questions d'approfondissement, vous pouvez peut-être attendre à la période de discussion après. Voilà. Fait qu'on peut y aller. Puis peut-être même avant. on peut y aller. Fait que. Hey, c'est drôle, les fleurs que ça sort. C'est comme une surprise à chaque fois. Fait que voilà, j'ai dit recadrer le débat pour bien être en contrôle du débat ou en fait pour dépoussiérer là, le débat de ces affres capitalistes. En fait, il ne faut pas se le cacher. D'un côté, donc, on aurait une économie capitaliste. Je prends pour acquis que, dans le fond, il y a un travail qui a été fait il y a 2 semaines. Donc, il y a plein d'affaires aussi que je ne détaillerai pas sur la nature de la critique, sur c'est quoi le capitalisme. Par contre, il y a peut-être des moments où je vais être obligé de le faire, là, mais je ne prévois pas le faire. Donc, dans tous les cas, que le système dans lequel on vit est synonyme de liberté et que c'est le marché qui nous permet d'atteindre cette liberté-là. On vit dans une économie de libre marché, après tout, n'est-ce pas? C'est une fable. Déjà, il faut le prendre pour ce que c'est. Là. C'est vraiment une fable. Le libre marché, c'est un mensonge. Le marché actuel, les marchés, là, déjà, c'est une abstraction. Le marché, on peut parler des marchés, c'est-à-dire le marché de l'immobilier, le marché alimentaire, le marché du livre au Québec. c'est des marchés, puis quand on parle juste du marché, ça peut être confondant parce qu'on n'est pas trop sûr toujours de qu'est-ce qu'on veut dire. Dans tous les cas, ces marchés-là ne sont pas libres, je reviens dans un instant, mais ils sont activement planifiés. C'est ça, ça va être ça le point du recadrage, c'est que le capitalisme aussi est une économie planifiée par des grandes entreprises et des acteurs puissants. Je reviens dans un instant de chacun des marchés. Donc, d'un bord du débat, on aurait la corne d'abondance, et de l'autre, on aurait l'URSS, la moustache de Staline, les tanks de l'armée rouge, la perte de liberté individuelle, les goulags, name it, tout ce qui est désirable en noir et blanc, poussiéreux, name it, là, mais on peut beurrer épais en termes de tout ce qui est indésirable de ce bord-là, pauvreté, etc. Et ça, c'est à peu près le cadre du débat bien piètrement posé, là. Je bois un peu plus d'eau parce que je bois, parle plus fort.
Vous me déplacez beaucoup aussi, c'est ça.
C'est un, je pense que c'est le même qui passe mon petit peu. Mes étudiants, ils ont mal au cou. Ils sont assis en avant, ils me disent que je marche. Je peux limiter. Mais, puis juste ça, c'est important de poser bien les termes du débat parce que quand on parle d'une critique du capitalisme ou quand on propose d'autres choses, ou en fait, même pas besoin de proposer. Là, dès qu'on parle de capitalisme ou de critique du capitalisme, la première affaire qui vous sort, c'est « Ben là, vous voulez pas qu'on retourne en URSS quand même. » Puis on n'avait pas prévu de parler de ça dans le livre, c'est juste on n'a pas le choix, tu sais, c'est comme on va se le faire pitcher d'en face, t'sais. Puis moi, c'est ça, je fais une thèse en parallèle de tout ça, en tout cas, j'essaye, puis c'est la même affaire, tu sais, j'écris un chapitre sur l'URSS, pas tant que ça, parce que j'ai une passion morbide pour ce qui s'est passé sous Staline. C'est juste, elle est tellement là, elle est tellement associée idéologiquement qu'on n'a pas le choix d'aller comprendre ce qui s'est passé en URSS pour décortiquer les causes du désastre économique soviétique pour, en fait, en identifier des causes politiques. C'est ça qui est intéressant. Ça, c'est une des affaires que je ne parlerai pas à soir, l'URSS. Si ça vous intéresse, je peux en parler en discussion, par exemple, parce que c'est quand même une conversation qui est, je me suis ramassé à trouver intéressante un peu malgré moi au final. Mais qu'en fait, l'échec de l'URSS, pour le dire juste en une phrase, n'est pas dû à son système économique. Puis je vais peut-être en parler, je suis sûr. Mais en tout cas, pour l'instant, je vais arrêter ça. Fait que ça, c'est le débat tel qu'il est présenté. Fait que prochaine diapositive. Fait qu'en fait, c'est pas de se demander est-ce qu'on doit planifier une économie qui n'est pas planifiée. L'idée, c'est de démocratiser, évidemment, de structurer une économie déjà planifiée par les acteurs les plus puissants de chacun des marchés. Et je dis « et restructurer » parce qu'il y a quand même un débat, même au sein de la gang qui prône une planification démocratique de l'économie, à savoir est-ce qu'on change ou pas la nature de ce qu'on socialise, si on veut. Là. Est-ce qu'on fait juste prendre la machine, on démocratise ça, ou est-ce qu'on la réoriente aussi, tu sais, puis on la downgrade un petit peu, là, parce que, tu sais, il fait chaud un peu. Fait qu'il y a quand même, il y a une question qui est importante là-dessus, c'est est-ce qu'on fait juste démocratiser l'organisation économique telle quelle, ou est-ce qu'on la démocratise et on la renipple. Donc, le capitalisme est déjà planifié. C'est rare qu'on voit ces deux termes-là côte à côte, puis je dois le dire, c'est de façon un peu provocatrice, mais ce qui est plus porteur, ce que ça montre, c'est que c'est plus porteur de parler de type, de mode de coordination de l'économie. Et là, ben, on a quelque chose de plus porteur parce qu'on n'a pas la moustache de Joseph d'un bord puis la réussite de Bezos de l'autre à laquelle on pourrait tous aspirer si on travaille assez fort puis si on fait assez de sacrifices. Le capitalisme est déjà coordonné. Puis sur la nature de la coordination de l'économie capitaliste, je vous ramène au dernier cours, en espérant pas trop vous décevoir, mais l'économie capitaliste, donc, est déjà activement coordonnée par les joueurs les plus puissants de chacun des marchés. Elle est en mesure, en étant puissante, en tout cas, j'ai mal conjugué, de coordonner activement. Donc, d'interagir à son avantage avec les autres joueurs de chacun des marchés. Ça peut être l'État, ça peut être ses employés, évidemment, où le rapport de force est complètement désavantagé pour les employés, ça peut être ses fournisseurs, ça peut être les gens à qui ils vendent, ses clients, donc en tant que consommateur. Il y a un rapport de force ici. Et ce serait complètement absurde de se dire que chacun des capitalistes laisse leur entreprise et les marchés complètement libres, sans intervenir. Donc, à chaque fois que vous entendez le mot « libre marché » aux nouvelles, ou quelqu'un qui veut, ou un politicien qui veut libérer un marché, ce que ça veut dire pour de vrai, c'est de retirer des régulations pour donner plus de pouvoir aux acteurs déjà les plus puissants d'un secteur économique. Donc, ce qu'on peut dire, puis il y a un bouquin que, bon, ben, qu'on a jasé un peu tantôt, qui vient d'être publié là-dessus chez Verso, People's Republic of Walmart, par Leigh Phillips et Mikhail Rozovsky, qui disait, si vous voulez, je pourrais peut-être remettre les noms des ouvrages que je vais citer. Là, j'ai pas de tableau, là, évidemment, mais peut-être à la fin du PowerPoint, puis le remettre en ligne. Je sais pas si c'est possible pour le PowerPoint.
Envoyer, puis le mettre en ligne.
Ouais. OK, on pourra faire ça. Puis eux autres, en fait, ils disaient, ben écoutez, Walmart est déjà planifié, vous voyez, c'est faisable, on a juste à socialiser Walmart, puis bingo, tu sais. Bon, je fais caricature leur présentation, mais eux autres, ça fait partie de la gang des techno-optimistes, ceux qui pensent qu'il n'y a pas de limite écologique à transgresser, on va y revenir. Le problème, si, mettons, on faisait juste ça, c'est que sous le capitalisme, on ne considère pas qu'il y a une absence de coordination entre chacune des entreprises. Donc, il n'y a pas de coordination sociale de l'activité économique. C'est un peu ce qu'on va appeler, ou ce qui est appelé, ce que Marx a appelé, l'organisation anarchique du marché. Donc, chacun des investisseurs, chacun des grandes entreprises, chacune des grandes entreprises a à peu près les coûts des franges en fonction de, malgré certaines législations, pour investir et opérer sans se consulter entre elles. Et ça, c'est catastrophique en termes environnementaux, puis on va voir dans un instant pourquoi. Aussi, autre dimension de recadrage de débat, le capitalisme n'est pas démocratique. C'est rare qu'on parle de démocratie et d'économie ensemble, mais ce qui est important, la raison pour laquelle c'est important de le faire, c'est de réaliser que le rôle du consommateur ou de la consommatrice, travailleur, travailleuse, n'est pas décisionnel sous le capitalisme. Donc, en tant que consommateur ou consommatrice, on n'a pas de droit de vote sur l'origine des marchandises qu'on achète, les conditions de travail de l'entreprise qui a produit ces bébelles-là, l'énergie qu'ils utilisent, où ils sont situés, les matériaux qu'ils utilisent. En tant que consommateur ou consommatrice, on ne peut pas voter là-dessus, on n'a pas d'emprise là-dessus. Bon, les plus malins vont me dire « oui, mais on peut acheter une autre patente ». Ouais. Acheter, c'est voter, comme a été popularisé l'adage par l'adage au Québec. Je prends une petite minute pour y répondre. Si on accepte, si on prend cet argument-là au pied de la lettre, acheter, c'est voter. C'est, même si on peut quand même s'entendre sur le fait que l'argument sous-entend qu'on a un pouvoir politique par l'acte d'achat, si on prend l'aphorisme au pied de la lettre, ça veut dire, et qu'on le transpose dans une démocratie politique, ça l'impliquerait, j'ai fait des petits calculs tantôt, maison, des dates de 2015, qu'on accepterait au Québec qu'aux prochaines élections provinciales, donc octobre prochain, que des gens comme Alain Bouchard, Pierre-Carl Péladeau, n'aient pas seulement un droit de vote, mais 500 droits de vote. Est-ce que c'est quelque chose qu'on accepterait de moduler notre pouvoir décisionnel en fonction de notre revenu? Évidemment, poser la question, c'est un peu répondre, là. Ça ne tient pas la route. Pourtant, c'est précisément ce qui se passe dans le secteur économique. Notre pouvoir d'achat est synonyme de notre capacité à influencer la sphère économique. Alors que quand on fait 20 000 $ par année, on n'a pas les décisions, on n'a pas le pouvoir décisionnel pour influencer la sortie des énergies fossiles, par exemple, ou des restructurations d'entreprises. Et même chose en tant que travailleur ou travailleuse, on n'est pas consulté à différents degrés en fonction d'où on travaille, d'ordre général, pas consulté sur l'organisation du travail, sur les matériaux qu'on utilise pour produire telle patente, quelle énergie qu'on utilise dans le cadre de notre travail pour produire ce qu'on fait. Donc, c'est pour rappeler que notre rôle économique sous le capitalisme n'est pas décisionnel, à vous et moi. Le rôle économique du 99 sous le capitalisme n'est pas démocratique. Et on peut changer la diapositive, s'il vous plaît. Ah ouais, bon, ça c'était des données là. Pour montrer la concentration, là, c'était comme la fin de... Vous voyez, mais moi, je m'y parle, tu sais, je me ramasse à faire de la critique encore, tu sais. C'est des réflexes qui sont durs à se déprendre. Mais bon, rapidement, là, puis c'est la dernière affaire, ensuite on passe à la planification. Quoi que ça en est, hein, vous voyez ici, bon, le nombre de firmes qui se partagent des parts de marché, ici, par secteur. Donc, la première ligne en haut, des avions... des grands avions commerciaux. Il y a deux entreprises qui partagent 100% des parts de marché. Donc, est-ce qu'on peut dire que le marché est libre? Est-ce que mon oncle Roger pourrait se partir en business dans l'aviation internationale? J'en doute. Évidemment que ça implique des barrières à l'entrée. Ces entreprises-là vont faire à peu près tout pour éviter qu'il y ait des concurrents qui émergent dans leur secteur. Vous en avez d'autres, là, pharmaceutiques, TV plasma, téléphone intelligent, etc. Puis d'autres ici autour des techs. On peut passer. Bon. Trois principaux modèles. Ce qu'il y a dans le livre, en fait, qui est une proposition un peu... on écrit ça en un an, un peu moins... Puis beaucoup de bébés, en tout cas, on est tous tombés papa pendant la rédaction du bouquin, c'était prévu, mais en tout cas, ça se fera pareil toujours. Fait que, tu sais, la synthèse qu'on a faite de à peu près ces trois modèles-là, que je vous présente dans un instant, a été un peu, je dirais pas improvisé, là, mais quand même un peu sur le bout des doigts là, en termes de ce qui est possible ou acceptable de faire là, dans un ouvrage, parce que ça existe comme pas vraiment. Puis nous autres, on s'est dit, je pense qu'en prenant tel bout-là, ouais, ça se tient, ça se tient-tu? Ouais, je pense que ouais. OK, go, OK, on y va? Ouais, OK, go. Fait qu'on a pris à peu près ce qu'on pensait être le plus bénéfique de chacun des trois modèles. Il n'y en a pas 27, là. J'étais assez étonné quand je suis rentré dans la littérature sur la planification démocratique qui me semblait à peu près la proposition économique la plus convaincante, tu sais, qui serait sur la table depuis le début de la critique du capitalisme, qui coïncide à peu près avec le début... du capitalisme en tant que tel, qui aurait plus de variété. Fait que, rapidement, hein, le premier modèle, celui de l'économie participative, l'économie participaliste, qui a été écrite, publiée initialement en 1991 par Michael Albert Robin Hanau, qui est plus connu au Québec à cause des travaux, justement, comme je l'ai dit tantôt, de Pascal Lebrun et Simon Tremblay-Pépin. Je ne rentrerai pas dans le fonctionnement des modèles parce que ça va vite virer technique, mais on peut y revenir en masse en discussion. Je voulais me tenir plus proche du propos du livre qui disait au niveau des principes et de la dimension écologique, mais quand même important de garder un œil sur c'est quoi la littérature qui existe sur le sujet. En fait, le premier en ordre chronologique, là, mais ici, Pat Devine, Democracy and Economic Planning, qui est le premier à avoir écrit là-dessus, dans la deuxième moitié du 20e siècle, je laisse derrière Murray Bookchin et Cornelius Castoriadis qui ont écrit là-dessus avant ces trois-là, mais c'est moins des modèles accomplis et finis, des propositions de modèles, que des principes généraux et des petits bouts de modèles quand même. Donc, 89, ici, un peu plus proche de... va accepter une part de représentativité, donc de délégation du pouvoir. Parce qu'à un moment donné, hein, planifier une économie à gang, ça va demander que ce ne soit pas tout le monde qui décide de tout le temps. Ça, je reviens dans un instant. On va se perdre en réunion à décider du nombre de bas bruns qui sont produits en France à chaque année. Tu sais, ça ne me concerne pas pourquoi je serais consulté là-dessus. Je reviens dans un instant. Albert et Arnold reconnaissent quand même une partie, sont issus d'une tradition libertaire, donc vont avoir tendance à refuser davantage d'institutions et de délégations du pouvoir, vont avoir un modèle qui est beaucoup plus décentralisé. Et le plus récent, là, je dirais, Cockshott et Cottrell, 93, Towards a New Socialism, si vous voulez comme vous initiez au modèle de planification démocratique. Donc, vous voyez, il n'y en a aucun en français, puis aucun ont été traduits. Voilà. L'apport de ce livre-là, je le souligne parce que ça amène la discussion ailleurs. c'est qu'ils vont prouver, 93, que la planification démocratique d'une économie, donc d'un pays, à l'échelle d'un pays, elle est technologiquement possible, elle est techniquement possible. Ça, ça répond à un argument d'un débat qui a eu lieu sur la planification en hiver, années 30. C'est pas un caprice d'intello de retourner à ce débat-là, ça a été central à savoir, ouais, mais c'est cool, mettons qu'on voudrait planifier une économie juste même du Québec. Est-ce que c'est faisable? Est-ce qu'il y aurait trop d'affaires à planifier? Tu sais, combien de tranches de pain dans tel café, de café, quelle quantité d'énergie vous avez besoin de chauffage pour chacun des commerces de tout un pays? Est-ce que c'est pas comme trop d'informations à gérer? C'est l'argument des économistes néoclassiques de l'époque, Ludwig von Mises puis Hayek, pour ne pas les nommer, qui eux autres disaient c'est impossible. Il y a trop d'informations, il va y avoir une saturation d'informations à la tête, au centre, qu'ils appelaient. Donc ça ne va jamais. C'est impossible. L'affaire avec ce débat-là, puis en fait, pour finir la parenthèse, c'est qu'eux autres, ils disent ben là, aujourd'hui, 93, les technologies le permettent. Donc, imaginez, on est à peu près 30 ans plus tard, en termes d'avancée technologique, ils ont réécrit des mises à jour, prouvant effectivement qu'on a les capacités techniques de planifier une économie à l'échelle d'un pays. Le livre que je vous ai parlé tantôt, People's Republic of Walmart, disent aussi, regardez, Walmart est planifié, Amazon est planifié, évidemment qu'on serait capable de planifier l'économie d'un pays, c'est des économies qui sont plus grandes que certains pays, effectivement. Le temps file vraiment plus que prévu. Ouais, je vais laisser ça en plan, puis on reviendra dans la période de discussion au besoin. Fait que peut-être passer à la prochaine slide. Fait que de quoi est-ce qu'on parle? Avec ces trois modèles-là, donc ces trois ouvrages, mais quand même, Albert et Arnold ont publié comme une dizaine de livres, des articles. Ils publient encore aujourd'hui. Ils sont chicanés il y a une couple d'années, ils ne se parlent plus. Mais Arnold, lui, continue de publier des affaires. Son dernier livre, cet été, mois d'août, si je me rappelle bien. Lui, c'est comme une espèce de gros sommaire là, de son œuvre. Je pense que si vous voulez rentrer dans son œuvre, ce serait comme une bonne porte d'entrée, parce qu'il prend pour acquis qu'on ne connaît pas sa patente. Puis il repart, puis il intègre les dimensions récentes, c'est-à-dire les questions féministes, les questions de la reproduction sociale, qu'est-ce qu'on fait du travail domestique, puis qu'est-ce qu'on fait de la crise écologique. Le gars a une formation en économie néoclassique, puis ça paraît. Je suis désolé, je laisse tomber ça là, puis j'ai pas le temps de vous expliquer pourquoi. C'est juste qu'il va régler... Ouais, je le fais en une minute ou deux, là. C'est juste qu'il va régler la question écologique avec des prix, tu sais. Les unités de pollution sont calculées comme des prix. Ils disent, ben, les gens qui émettent des unités de pollution vont les envoyer dans le marché. Bon, ils appellent pas ça les marchés. Dans la planification. Puis les gens de l'autre bord vont énoncer quelle quantité d'unités de pollution sont prêtes à recevoir. Comme ça, il va y avoir des itérations entre les deux gangs, les émetteurs puis ceux qui reçoivent, si vous voulez, les unités de pollution. Ils vont trouver une espèce d'équilibre là-dedans. Puis, ben, on va trouver justement là, l'équilibre partiel, si vous voulez, entre l'offre et la demande. Un équilibre, un optimum de Pareto pour le jargon économique. Puis, voilà, c'est ce qu'on fait avec ça. Fait qu'on règle la patente avec des prix, sans se soucier, puis je vais en parler tantôt, sans se soucier de... Mais c'est quoi la quantité de matière et d'énergie qui rentre et qui sort de l'économie? C'est quoi notre impact, en fait, sur les écosystèmes et sur l'atmosphère en termes d'émissions de gaz à effet de serre? Je ferme ça là. Donc, ces quatre éléments-là, c'est des éléments de... c'est des dénominateurs communs des trois modèles que je viens de vous mentionner. Donc, quand on parle de planification démocratique de l'économie, on parle quand même d'une socialisation des moyens de production. Que ça veut dire, en d'autres termes, pour par écho à une note de l'IRIS qui est sortie récemment sur la planification démocratique de l'économie, que je pourrais aussi mettre en note, là, qui est quand même une bonne porte d'entrée sur l'enjeu aussi. On parle d'interdire l'entreprise privée. On parle d'interdire, en fait, de rendre illégal, puis Albert et Arnold, ils disent, au même titre que l'esclavage l'était, l'a été, d'abolir la propriété privée, l'entreprise à but lucratif au Québec. Donc, au Québec, on prendrait là, la catégorie entreprise à but lucratif, puis on abolirait ça, ce serait illégal. Évidemment, on n'ira pas fouiller là, dans tous les dépanneurs, puis tous les salons de coiffure dans tous les villages pour dire « Non, vous êtes illégal, venez, on vous envoie dans le Grand Nord piocher du fer. » C'est pas ça l'idée. Quoique Albert et Arnold, il y en a zéro, puis une barre. Je pense que, tu sais, entre nous autres, on serait capable de s'entendre sur un certain degré, tu sais, d'entreprise privée, puis ça change pas grand-chose sur l'allocation des investissements, puis j'y arrive dans un instant. Ici. Ouais. Là. L'allocation des investissements à l'échelle sociale. S'il y a deux, trois dépanneurs qui sont encore privés, tu sais, c'est pas grave. Ce qu'on veut faire, c'est de démocratiser l'orientation principale de notre économie. Par où est-ce qu'on s'en va socialement? C'est quoi l'orientation que prend notre économie? Comment se construit notre société? Puis actuellement, vous et moi, comme je vous ai mentionné tantôt, notre rôle économique n'est pas décisionnel. Fait qu'on n'a pas de main sur le volant. Fait qu'on fait juste comme écoper de l'avancée de notre société. On n'a pas de main sur le volant. Notre seule main sur le volant, elle est légèrement politique, une fois tous les 4 ans, puis évidemment, il y a les pouvoirs des mouvements sociaux. Mais dans une société idéale, qu'on peut dire, hein, c'est un peu à ça qu'on réfléchit, une forme d'exercice de pensée, on aurait besoin d'un pouvoir économique décisionnel. Autant sur nos milieux de travail, donc au jour le jour, comment est-ce qu'on s'arrange, c'est quoi mes horaires, c'est quoi mes salaires, comment on arrange l'endroit où est-ce qu'on travaille, dans notre milieu de vie. Donc, où est-ce que je vis, si je veux ou non des pistes cyclables, si je veux qu'il y ait des parcs, des balançoires, une piscine, etc. Donc, mon environnement de vie, ça, on pourrait avoir, un droit de vote économique sur l'allocation des ressources publiques. Donc, on pourrait penser à l'élaboration de budgets participatifs, mais à l'échelle, donc d'augmenter, disons, significativement la portion du budget qui est participatif. Et aussi à l'échelle de l'économie dans son ensemble. Donc, que l'équivalent, mettons, du budget du Québec, mais qui inclurait l'ensemble de l'économie du Québec, serait élaboré de façon démocratique et adopté aussi de façon démocratique. Fait que les trois modèles que je vous ai présentés ont trois façons d'y arriver, là. La grosse question, c'est « ouais, mais comment? » Est-ce que tout le monde, on délibère dans une assemblée générale sans arrêt pour arriver à un plan un plan économique du Québec. Est-ce qu'il y a une grosse partie qui pourrait être automatisée par les technologies? Certains vont dire ça, d'autres par représentation, par principe de représentation. Bon. Je sens que c'est peut-être pas satisfaisant, là, trouver l'équilibre entre la nuance et la vulgarisation, là, vous m'excuserez si... Bref. Voilà, puis un autre élément de synthèse qui s'applique des modèles, c'est qu'ils vont proposer une égalisation des salaires et des tâches. Égalisation des salaires, vous avez probablement déjà entendu parler de cette idée-là. L'égalisation des tâches, peut-être un petit peu moins. Hein, les auteurs vont parler de système de tâches. Donc, une job en tant que telle, c'est un ensemble de tâches. Là, vous vous rappelez comme un CV ou une description de tâches, c'est un ensemble de tâches. Puis, ils proposent de redécouper qu'est-ce qu'un emploi et de redistribuer les tâches en fonction de leur désirabilité pour que à peu près tout le monde aille un niveau de désirabilité de job qui soit à peu près équivalent. Fait que ça, c'est un autre des éléments qui est impliqué quand on parle de planification démocratique de l'économie. Je parlais de socialisation tantôt et d'autogestion, donc les trois niveaux, si vous voulez, de démocratie économique, qui revient en fait, dernier élément, à qu'on pourrait appeler une démocratie des concernés, en fait. Le critère qui va déterminer si oui ou non Vous avez le droit de prendre parti à une décision économique. C'est ce qui vous concerne. Puis encore là, les auteurs ont différentes manières de répondre à cette question-là. Il y en a qui ça va être proportionnellement, donc plus vous allez être affecté par une décision, plus vous allez pouvoir voter, ou votre pouvoir décisionnel va être proportionnel à votre affectation par la décision. Donc, ce qui n'est pas le cas actuellement, on peut penser à la triste reconstruction de Mégantic après la tragédie qui est arrivée à Mégantic. Hein, pour ceux qui le savent et celles, une des premières affaires qui a été reconstruite, c'est la traque, tu sais. Puis il y a des trains qui repassaient avec du pétrole un mois, deux mois après, je pense. Évidemment, est-ce que c'est dans les intérêts des concernés? Peut-être que non, tu sais. Mais ces gens-là n'avaient pas voix au chapitre. Non plus sur la reconstruction, je vous renvoie peut-être au fantastique ouvrage de Marie Saint-Cerny, Mégantic, qui a été traduit en BD là, récemment, là, sur la deuxième tragédie de Mégantic, qui est sur la gentrification violente, là, qu'on pourrait dire, qui a lieu dans la reconstruction de Mégantic, où les gens, les habitants de Mégantic, les habitants n'ont pas été... participer aux prises de décision. Puis on peut penser à plein d'autres situations. Quand vous vous faites évincer, vous n'êtes évidemment pas consulté dans le processus. Donc, notre rôle économique n'est pas décisionnel. Puis il est presque 8 heures.
Mais on a commencé à écart. Hein?
Ah, OK. Ah bon, c'est une bonne information. Merci. Oui, donc on peut changer. Bon. À grands traits, Ça va comme vite, là. Il y a comme bien des affaires à détailler en amont, là, comme vous voyez. C'est un petit peu difficile de couvrir ça sans non plus parler de chacun des modèles. J'ai comme hésité jusqu'à 15 minutes là, avant si j'ai présenté en détail ou pas. Là. Fait que c'est pour ça que je suis comme un petit peu ses talons pour vous les présenter. Bref, j'y vais. Pourquoi? Donc, une démocratie économique ou une socialisation des moyens de production, qu'on pourrait dire, serait plus écologique qu'un soi-disant libre marché, qu'une économie de type capitaliste. C'est que dans un premier temps, la concurrence entre chacune des entreprises est due à la propriété privée des moyens de production. Si on avait une économie qui était socialisée, les différentes parties prenantes, les différentes entreprises, unités de production, ne seraient pas en concurrence les unes contre les autres pour aller retirer le plus de parts de marché de leurs concurrents. Il n'y aurait pas cette course à la croissance pour réduire les coûts de production au détriment de, généralement, la nature des travailleurs et travailleuses pour retirer, soutirer des parts de marché à ses concurrents. Et cette concurrence-là est l'impulsion initiale pour la croissance économique sur le capitalisme. Et cette croissance économique-là, qui est à toute fin pratique l'augmentation annuelle des biens et services qui sont vendus dans un pays, ça a une dimension matérielle. C'est pas juste des flux monétaires. Des affaires qui sont vendues, des prix, de l'argent, ça a une base matérielle. La croissance, c'est pas juste des chiffres sur des tableaux qui s'accumulent, c'est du béton, c'est du pétrole, c'est des pneus, c'est du bois. Name it, ça a une réalité matérielle. Et ça, c'est irréductible. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas parler de croissance verte ou qu'il n'y aurait pas de découplage possible, donc de découplage, de séparer la croissance économique avec largement impact environnemental. C'est que toute activité économique a, de façon irréductible, une réalité matérielle. Il y a du travail, il y a des matériaux, il y a de l'énergie. C'est la raison pour laquelle abolir la propriété privée des moyens de production serait une mesure environnementale parce qu'on viendrait saper l'impulsion initiale à la croissance économique. Donc, on viendrait couper l'impulsion même économique, en fait, à la croissance. Ce qu'on pourrait dire, ouais, mais en URSS, c'est de la croissance pareil. Oui, mais l'impulsion, elle était politique, si on veut. Puis on pourrait revenir peut-être encore sur l'URSS en conversation, période de discussion, mais il n'y aurait pas d'impulsion économique à la croissance. Donc ça, c'est à peu près ce que les auteurs nous disent comme raison principale. Il y en a même qui veulent jusqu'à dire qu'on n'a pas besoin de d'autres affaires. On n'a pas besoin de réfléchir ensuite à comment on va régler les enjeux environnementaux parce qu'il n'y a plus de croissance économique. Ça finit comme là. Il n'y a plus il n'y a plus d'impulsion, le tapis roulant, on tire la plug, tu sais, on ne court plus sur place. Fait que ça finit là. On va rajouter des affaires, nous autres, là-dessus. Fait que tu peux, ouais, s'il te plaît. Ce qui va permettre aussi la démocratie économique pour mieux rendre compte des enjeux écologiques, c'est de rendre compte, en fait, de l'interdépendance et la complexité des enjeux environnementaux. Je vous en donne un exemple. Le réchauffement climatique fait fondre des glaciers qui s'écoulent dans des océans, qui vont modifier la composition des océans, qui vont affecter les courants marins, affecter la biodiversité marine aussi, les petits coquillages qui peuvent se former seulement à un certain niveau de salinité. Donc, la biodiversité va être affectée. Eux autres, ils pourront plus, ne peuvent déjà plus, pour certains, le faire. Donc, perte de biodiversité marine. Donc là, on a un impact sur la chaîne trophique, la chaîne alimentaire qui est brisée ou qui est affectée et va devoir se recomposer. En affectant les courants marins avec la composition de l'eau, une eau qui est moins, plus ou moins salée, ne va pas circuler de la même manière non plus, puis ne va pas aller à la même place, va aller plus en profondeur ou en surface, va affecter les courants marins, va affecter donc les climats côtiers, les déplacements de population. Il y a un ensemble de patentes qui sont reliées puis qui sont complexes, puis je vous dis ça bien vite, sûrement un peu trop vite, juste pour qu'on réalise justement la complexité et notre ignorance de tout l'impact d'une activité économique de l'activité économique actuelle. Aujourd'hui, par exemple, mais aujourd'hui, demain aussi, là, mais une tonne d'émissions de gaz à effet de serre a plus d'impact si elle est émise en altitude que si elle est émise en basse altitude, par exemple. Mais ça c'est un élément d'interdépendance et de complexité qui ne peut pas ou est très difficilement prise en considération par une entreprise qui prend des décisions d'investissement puis de production. Les arguments ici, c'est des arguments de l'économie écologique qui vont nous dire que si les entreprises s'assoyaient entre elles et n'avaient pas comme objectif, évidemment, de la croissance économique, seraient davantage en mesure de prendre en considération l'interdépendance des rapports sociaux et des rapports environnementaux. Donc, avec pas seulement des entreprises, mais on parle de démocratie élargie. Ça, la petite chaîne de conséquences que je viens de vous parler, bien, il y a plein d'affaires qu'on ne sait pas non plus. Il y a plein d'affaires qu'on ignore aussi. Puis on ne peut pas prétendre prendre des décisions économiques sur la base qu'on est en mesure d'intégrer tous les impacts environnementaux des décisions économiques. C'est ce que les décideurs sont en train de parler essentiellement avec le marché du carbone à la COP, c'est de voir comment est-ce qu'on peut internaliser, donc de monétiser, si vous voulez, les externalités, donc des erreurs de marché ou des conséquences qui sont pas considérées dans le prix d'une marchandise, comment est-ce qu'on peut internaliser l'ensemble des conséquences écologiques. L'économie écologique va nous dire, ben ça ne marche pas de même, tu sais, on ne peut pas faire ça, c'est juste impossible. Encore moins, si on fonctionne juste avec des prix. Et là, c'est l'idée de l'incommensurabilité. C'est l'idée qu'on ne peut pas comparer, par exemple, des lieux qui sont sacrés. On ne peut pas mettre une valeur sur certains éléments de la nature, sur les cimetières sacrés, ou même sur la perte d'une espèce qui est menacée. Combien que ça vaut, ça? C'est incommensurable, ça ne peut pas être transposable en termes monétaires. Donc, ce qu'ils vont nous dire, c'est que c'est non seulement nécessaire de démocratiser l'économie pour augmenter le nombre d'acteurs autour de la table, pour davantage être en mesure de prendre en considération l'interdépendance, la complexité, l'incommensurabilité, bon, l'ignorance. Mais aussi, est-ce que je m'en allais avec ça? Je vais revenir. Mais oui, c'est parce que je m'en allais. En tout cas, pas bien grave. Intriguant, mais bon. Aussi, y a quand même des études qui ont été faites sur des ressources naturelles qui ont qui ont montré que les ressources naturelles, les matières premières, bon, quand même utiliser les ressources naturelles avec des guillemets, sont mieux gérées quand ils sont gérés de façon collective. Donc, il y a moins tendance à surexploiter les matières premières, les flux énergétiques, quand ils sont gérés de façon collective. C'est ce qu'ont montré les travaux de Elinor Ostrom, prix Nobel aussi, à utiliser en guillemets, l'économie, seule femme, parce que je sais aussi qu'il l'a gagné, qu'elle a montré. Donc, il y aurait aussi un autre avantage. On est moins tenté de détruire un parc quand on habite à côté ou quand on y va tous les jours. Quand les gens sont concernés par une décision, sont moins portés à prendre des décisions qui ne vont pas dans leur intérêt. Pour des enjeux environnementaux, il y a une dimension vraiment fondamentale sur le fait de consulter les gens qui sont affectés par les décisions qui sont prises, autant à l'échelle locale que internationale, on pourrait dire. On pourrait dire d'ailleurs que les grandes entreprises qui continuent de polluer de façon pleine et consciente, l'industrie fossile, en retire profit de cette activité-là, de par la nature de son modèle économique. Mais vous et moi, on ne tire pas profit de cette pollution-là, c'est pas mal plutôt l'inverse. Mais si tout le monde, ou disons si ces décisions-là étaient prises de façon démocratique, on pourrait s'attendre à ce que des décisions qui ne bénéficient qu'à une minorité, ben arrêtent d'être valides, arrêtent d'être prises, disons, en faveur de ces intérêts privés-là. Donc l'idée, c'est de remplacer une coordination privée de l'économie qui favorise et même permet la primauté des intérêts privés sur l'intérêt collectif pour mettre de l'avant une coordination collective de l'économie qui facilite et permettrait la défense des intérêts collectifs. Voilà pour l'argument de l'économie écologique. Récemment, des chercheurs, je reviens comme en deux temps, certains ont peut-être reconnu le beigne, je reviens dans un instant. Les chercheurs ont identifié 9 limites planétaires, disant voici où ça va pas bien. Et sur le pourquoi, sont un petit peu dans le champ. Je reviens dans un instant. C'est des chercheurs qu'on appelle issus des sciences de la Terre. Donc, sur la compréhension, l'identification des causes sociales, il faut aller voir ailleurs. Dans tous les cas, ils ont identifié ce qu'on pourrait appeler un plafond planétaire, donc l'espèce de limite au-delà de laquelle il ne faudrait pas continuer d'aller, ou sinon les risques deviendraient critiques. Ils en ont identifié 9. Et selon ces chercheurs-là, 2009, si je me rappelle bien, comme 2 études, l'idée, c'est qu'il y a une limite qui est objective. On va rentrer dedans comme d'un mur. Ces limites-là, elles vont nous forcer à reconfigurer la manière qu'on fonctionne. Ça va être comme une espèce de... Si on rentre dans un mur, on ne continue pas d'avancer, tu sais, on revient de bord. Ou on arrête, à tout le moins. Je reviens dans un instant pour vous montrer en quoi ça pourrait poser problème. Donc, l'idée des limites, autant planétaires, mais aussi sociales. Si l'idée de ce qui est appelé le bang, la théorie du donut de Kate Raworth, quelques nuances à avoir sur l'utilisation du bang, à tout le moins, je trouve, l'imagerie quand même sympathique, l'idée qu'il y a un plafond écologique qu'il ne faut pas dépasser et qu'il y a aussi des besoins sociaux qu'il faut combler. Si on reformule ça dans une phrase, ce serait l'idée que l'objectif d'un système économique, c'est de satisfaire les besoins de tout le monde à l'intérieur des limites planétaires. Il y a des études qui ont été faites sur la faisabilité de cette affaire-là. Ce qui reste à déterminer, c'est comme l'épaisseur du beigne, tu sais, évidemment, sur l'ampleur, sur le jeu qu'on a. Fait que ça, évidemment, la question est comme ouverte parce que ça amène plein de questions. Est-ce que je vais avoir encore une TV? Je vais avoir une console de jeux vidéo? T'sais, c'est pas à ce niveau de détail-là qu'on peut répondre à ces questions-là. C'est l'objectif, c'est de se demander, avec des besoins sociaux qui sont identifiés, est-ce qu'on est capable de combler tous ces besoins sociaux-là à l'échelle de la planète en respectant des limites planétaires? Et juste pour cette idée-là, de recadrer une économie en termes d'un objectif qui me semble, ma foi, défendable, de satisfaire les besoins de tout le monde à l'intérieur des limites planétaires. Donc, est-ce qu'on est capable de survivre sans brûler la Terre? Ça me semble un objectif qui est bénéfique. Puis c'est à l'intérieur de ces limites-là qu'on va tenter de planifier notre économie, en fait. Puis même mieux que ça, c'est pour identifier ces limites-là qu'il va falloir planifier notre économie. Parce que ces limites-là ne peuvent pas seulement être déterminées par les experts. Hein? Ce sont des limites... Je termine juste cette affaire-là, puis je vais...
Je veux juste savoir si les diagrammes se trouvent dans le livre.
Celui-là, je ne l'ai pas mis.
Merci.
Parce qu'il n'est pas de nous autres, mais ça s'appelle...
Je pourrais le regarder.
Ouais, ben je pourrais le mettre dans le diapo, puis que ça vous soit envoyé. Ouais. C'est assez facile à trouver, Théorie du Bang, ben, du Donut. Je ne sais plus si ça, le Donut a été traduit, là, mais c'est un livre qui a vraiment circulé, même qui a été fortement critiqué du point de vue anticapitaliste, on pourrait dire, parce qu'elle a comme une position contradictoire sur la croissance. On pourrait revenir. Ce n'est pas full intéressant pour notre propos, nécessaire pour notre propos, mais... Si ça vous intéresse, je pourrais quand même vous écrire la nature de la critique tantôt. Fac, c'est ça. L'idée, c'est de planifier pour rester à l'intérieur des limites. Parce que s'il n'y a personne, s'il n'y a pas une organisation sociale, là, peu importe sa nature, là, qu'elle soit étatique ou pas, là, que ce soit une forme d'État hyper décentralisé, la question n'est pas là, peut-être calée, mais plus tard. On va avoir besoin de s'organiser ensemble pour s'assurer que ce qu'on produit, ce qu'on consomme, ce qu'on éjecte dans la nature se fasse à l'intérieur de ces deux limites-là. Si on veut que tout le monde aille une vie décente, sans qu'on continue de brûler la planète, on n'a pas le choix de s'assurer que ces décisions-là soient prises ensemble, tu sais, à la gang. Parce que s'il y en a un qui ne rentre pas dans notre projet, puis s'il fait juste planter des patates dans son coin, c'est pas grave, tu sais, ou si la personne a coupé des cheveux ou a un dépanneur, c'est pas dramatique. L'idée, si y en a un qui se part une centrale nucléaire, tu sais, puis qui émet comme 2 millions de tonnes ou une raffinerie dans l'est de Montréal, puis émet comme 1,5 million de tonnes de GES par année, bien là, on pourrait dire « Ah, sorry, man, mais on va reprendre tes affaires, on va fermer ça, puis on va convertir tes employés vers des emplois verts. » Tu sais. C'est ce qu'on pourrait faire avec notre chère la raffinerie de Esso, ouais, c'est Esso. Suncor, ouais, c'est ça. Fait qu'elle est là. Elle est là, puis c'est un de nos plus grands émetteurs de GES au Québec, là, après la cimenterie mécaniste, là, qui est revenue dans les médias. Fait qu'on a besoin de planifier ces affaires-là. Par contre, ce serait une illusion que de dire que la limite externe, là, si on peut dire le crémage, là, si on continue dans l'analogie, mais la limite externe n'est pas donnée objectivement par des scientifiques là, qui vont nous dire « Ben écoutez, vous avez droit à tant de tonnes de cuivre, tant de tonnes de bois, etc. » Puis là, après ça, c'est fini. Ces limites-là, comme l'a défendu une gang de scientifiques juste issus des sciences sociales, c'est pas des limites objectives fermes qui nous sont données par la nature. Quand on les transgresse, c'est ça qu'on est en train de faire actuellement avec plusieurs d'entre elles, c'est de la gestion de risque qu'on fait, en fait. Parce que quand on transgresse une limite, c'est un risque qui augmente. C'est pas des limites objectives, là. Des limites, on en a déjà transgressées. Il y en a 4 de transgressées, si je me trompe pas. Peut-être quelqu'un qui sait plus que moi dans la salle. Bien, je veux dire, on est encore là, c'est juste qu'on gère des risques qui sont plus élevés. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces limites-là? On ne peut pas s'attendre à ce qu'elles soient déterminées de façon extérieure, mais ce que les scientifiques sociales vont nous dire, c'est que ces limites-là doivent être déterminées socialement aussi, parce que c'est la part de risque avec laquelle une société, une collectivité est prête à vivre aussi. Fait que, un autre argument, en fait, pour la démocratie économique, c'est que si on refuse cette idée-là, ce serait de laisser les clés des quantités de ressources, de matières, d'énergie dans les mains d'experts. Et là, on assisterait, en fait, le pas suivant, là, la conséquence politique de ce constat-là, ben, c'est une forme de dictature écologique qui va nous dire « oui, non, oui, non, oui, non ». Et de tout. Ben, historiquement, les systèmes politiques non démocratiques n'ont jamais défendu les intérêts des groupes sociaux marginalisés, des groupes dominés. Et on sait aujourd'hui, c'est documenté, la crise écologique frappe plus fort chez les groupes sociaux les plus défavorisés, alors qu'ils sont moins responsables de la crise. Donc, s'enligner vers une dictature écologique, ce serait renforcer l'impact négatif de la crise écologique chez les peuples, les groupes sociaux plus défavorisés. Voilà pour, disons, la problématisation de ces limites-là et la nécessité d'avoir des limites aussi. Ça, c'est une idée qui va à l'encontre d'une dimension culturelle hyper forte du capitalisme. C'est l'absence de limites. Sky's the limit. Il n'y en a pas de limites. Vous voulez me retirer mon pick-up, vous voulez me retirer mon steak. Ben, à un moment donné, on n'aura pas le choix, man. Parce que t'empêches de vivre du monde. C'est peut-être pas aujourd'hui, mais plus tard. Ces gestes-là ont un impact écologique. Puis, à un moment donné, il va falloir accepter le danger que représentent les énergies fossiles. Ce sont des armes de destruction massive, puis il faut un traité pour en gérer la consommation et la production à l'échelle internationale. À l'échelle globale et à l'échelle des années, des décennies à venir, c'est des vies qui sont en jeu. Il va falloir retirer, probablement de force, ces entreprises-là, parce qu'elles ne le laisseront pas aller. Tant qu'elles vont pouvoir continuer de produire et de vendre leur poison, elles vont le faire. Puis on peut difficilement s'attendre à ce qu'elles laissent aller ça de façon volontaire. Ça ouvre un ensemble de questions qui vont davantage être explorées dans deux semaines sur mais comment qu'on fait pour leur reprendre ces affaires-là, pour démanteler l'industrie fossile, en fait. Puis là, ben, on a un débat. Le débat n'est pas fort, mais la question est là, c'est est-ce qu'on va compenser les entreprises fossiles qui ont perdu leur permis d'exploration, tu sais. Bon, le temps nous le dira, mais quand même, on peut s'attendre à certaines réponses de la part d'un premier ministre. Puis, tu sais, il faut comprendre, petite parenthèse, mais cette décision-là d'interdire l'exploration et l'extraction des énergies fossiles, les hydrocarbures, pas comme une décision environnementale, là, c'est une décision économique. C'était pas assez rentable et c'était pas. Et électoraliste, on s'entend, là. Il y a comme une année avant les élections. En tout cas, je ne vais pas rentrer là-dedans, là, mais... prochaine diapo, ouais, s'il vous plaît. Ouais, bon, mais ça donne bien. Ouais, 8h15, c'est à sa forme. Fait que la démocratie économique, ce qu'elle permet, hein, fait qu'on s'entend, on est dans un environnement où l'entreprise privée, l'entreprise à but lucratif, elle est rendue illégale, où... Chacune des entreprises, elle est gérée de façon... Elle est autogérée et où les milieux de vie sont autogérés, si on veut, à la manière un peu des coop de solidarité, là, où les clients ou les gens qui reçoivent les services ont droit de vote ou droit de regard sur les services. Là. Donc, ça pourrait être d'être sur un conseil d'administration du restaurant ou du café du coin, parce que ça peut juste être plus pratique, tu sais, aussi pour une entreprise de savoir ce que ses clients veulent. Puis aussi, ça vient rendre inopérant la dynamique de concurrence entre les entreprises. Si vous avez quelqu'un de l'entreprise d'à côté qui siège sur votre conseil de gestion, d'administration, ben, vous êtes plus concurrent. Là, vous travaillez ensemble, puis vos objectifs, c'est pas d'aller retirer des parts de marché à l'autre pour croître, pour faire de l'argent, pour faire plus d'argent. C'est juste de satisfaire les besoins de la communauté. T'sais. Ça peut nous sembler vraiment jovialiste ou complètement déconnecté, mais c'est... D'un point de vue économique, c'est même assez facile à faire. La démocratie économique, c'est ce qu'elle permet, bon, les enjeux de l'économie écologique que j'ai parlé tantôt, et aussi d'intégrer plusieurs formes de langage. J'ai pas eu le temps de rentrer là-dedans, mais c'est les réalités environnementales ne rentrent pas dans les cases comptables. T'sais, on peut pas, ben, si on veut, par l'incommensurabilité là, qu'on pourrait répondre, c'est-à-dire qu'on peut pas mettre un prix sur un cimetière sacré, comme j'ai dit tantôt, sur une rivière, ou sur des espèces en voie de disparition, mais des langages. Donc, qu'est-ce qui rentrerait dans l'économie? C'est pas juste des signes de pièces, mais c'est des pelletés de sable, c'est des joules, c'est des tonnes, c'est matériel, puis c'est avant tout ça, l'économie. C'est ce que nous dit l'économie écologique. C'est pas juste des chiffres, c'est pas du PIB, c'est du matériel puis de l'énergie qui rentre, qui est produit, transformé, transporté, consommé, et ensuite dissipé dans l'environnement. Puis, une économie peut être vue de ce point de vue matériel-là, hyper concret. Puis, si on veut planifier démocratiquement, il ne va pas juste falloir planifier qu'est-ce qu'on envoie, quoi comme produit fini, qu'est-ce qu'on envoie où, pardon, à qui, mais il va falloir aussi planifier, ça donne un peu de vertige, mais tous les flux matériels et énergétiques qui rentrent et qui sortent de notre économie. Ça, bon, j'ouvre pas de parenthèse là-dessus parce que ça peut donner le vertige de se dire, bon, il faut planifier tel... quantité de tel matériau, aller chercher telle énergie, puis en planifier telle quantité. Mais si on veut être conséquent avec une compréhension biophysique de notre économie, on n'aura pas le choix d'aller jusque-là. Et ben, c'est sûr qu'au final, la démocratie économique, ça redonne un pouvoir décisionnel à une population qui s'en est faite. Se l'est fait retirer, en fait. Là. Vous et moi, on n'a pas de pouvoir décisionnel ni sur notre milieu de travail, milieu de vie ou sur l'orientation globale de la société ou très peu en fonction peut-être de la job qu'on a. Mais notre rôle n'est pas décisionnel. Pensez aux infirmières. Ce qu'elles ont besoin, c'est du pouvoir décisionnel pour prendre des décisions qui sont en adéquation avec leurs besoins. Elles savent ce qu'elles ont besoin, là. c'est des gestionnaires qui sont déconnectés de la réalité, qui prennent des décisions, alors que elles autres, elles n'ont pas le pouvoir décisionnel pour prendre ces décisions-là. C'est les ressources et les capacités de les allouer qu'elles ont besoin, entre autres. C'est le cas de beaucoup trop de gens sur le capitalisme. En fait, toute personne qui est ni propriétaire d'entreprise, de logement ou qui n'est pas, qui n'est pas hérité d'une fortune. Donc, on dépend du marché pour satisfaire nos besoins. Voilà. Et je ne sais pas, j'ai une autre slide. Je pense que c'est fini là. Et voilà, je vais laisser la suite pour la discussion. Merci.
Bien, merci Frédéric beaucoup pour nous avoir ouvert les horizons comme ça. Je suis sûr qu'il va y avoir beaucoup de questions. Dans 10 minutes environ, 1 et demi, on revient. Merci.